Jean de la Brette, mon oncle et mon curé. Chapitre 1. Je suis si petite qu'on pourrait me donner la qualification de naine si ma tête, mes pieds et mes mains n'étaient pas parfaitement proportionnés à ma taille. Mon visage n'a ni la longueur démesurée, ni la largeur ridicule que l'on attribue aux nains et aux êtres difformes en général, et la finesse de mes extrémités serait enviée par plus d'une belle dame. Cependant, l'exiguïté de ma taille m'a fait verser des larmes en cachette. Je dis en cachette, car mon corps lilliputien renfermait une âme fière, orgueilleuse, incapable de donner le spectacle de ses faiblesses au premier venu, et surtout à ma tante. Du moins, telle était ma façon de sentir à 15 ans. Mais les événements, les chagrins, les soucis, les joies, la pratique de la vie en un mot, ont détendu rapidement des caractères beaucoup plus rigides que le mien. Ma tante était la femme la plus désagréable que j'aie jamais connue. Je la trouvais fort laide, autant que mon esprit, qui n'avait jamais rien vu ni rien comparé, pouvait en juger. Sa figure était anguleuse et commune, sa voix criarde, sa démarche lourde et sa stature ridiculement élevée. Près d'elle, j'avais l'air d'un puceron, d'une fourmi. Quand je lui parlais, je levais la tête aussi haut que si j'avais voulu examiner la cime d'un peuplier. Elle était d'origine plébéienne et, semblable à beaucoup de gens de sa race, prisait par-dessus tout la force physique et professait pour ma chétive personne un dédain qui m'écrasait. Son moral était la reproduction fidèle de son physique. Il ne renfermait que des âpretés, des aspérités, des angles aigus, contre lesquels les infortunés qui vivaient avec elle se cassaient le nez quotidiennement. Mon oncle, gentilhomme campagnard, dont la bêtise était devenue proverbiale dans le pays, l'avait épousée par faiblesse d'esprit et de caractère. Il mourut peu de temps après son mariage, et je ne l'ai jamais connu. Quand je pus réfléchir, j'attribuais cette mort prématurée à ma tante, qui me paraissait de force à conduire rapidement en terre, non seulement un pauvre sire comme mon oncle, mais encore tout un régiment de maris. J'avais 2 ans quand mes parents s'en allèrent dans l'autre monde, m'abandonnant aux caprices des événements, de la vie et de mon conseil de famille. D'une belle fortune, ils laissaient d'assez jolis débris, 400 000 francs environ, en terre qui rapportait un fort bon revenu. Ma tante consentit à m'élever. Elle n'aimait pas les enfants, mais son mari ayant mal administré, elle était pauvre et songeait avec satisfaction que les ans entreraient avec moi dans sa maison. Quelle laide maison, grande, délabrée, mal tenue, bâtie au milieu d'une cour remplie de fumier, de poules et de lapins. Derrière s'étendait un jardin dans lequel poussaient pêle-mêle toutes les plantes de la création, sans que personne s'en souciât le moins du monde. Je pense que, de mémoire d'homme, on avait vu un jardinier émonder les arbres ou arracher les mauvaises herbes qui croissaient à leur guise, sans que ma tante et moi nous eussions l'idée de nous en occuper. Cette forêt vierge me déplaisait, car même enfant, j'avais un goût inné pour l'ordre. La propriété s'appelait Le Buisson. Elle était située au fond de la campagne, à une demi-lieue de l'église et d'un petit village composé d'une 20aine de chaumières. Ni château, ni castel, ni manoir à 5 lieues à la ronde. Nous vivions dans l'isolement le plus complet. Ma tante allait quelquefois à C, la ville la plus voisine du Buisson. Je désirais vivement l'accompagner, de sorte qu'elle ne m'emmenait jamais. Les seuls événements de notre vie étaient l'arrivée des fermiers, qui apportaient des redevances ou l'argent de leurs termes, et les visites du curé. Oh, l'excellent homme que mon curé! Il venait 3 fois par semaine à la maison, s'étant chargé, dans un jour de beaux ailes, de bourrer ma cervelle de toutes les sciences à lui connues. Il poursuivit sa tâche avec persévérance, quoique je m'entendisse à exercer sa patience. Non pas que j'eusse la tête dure, j'apprenais avec facilité. Mais la paresse était mon péché mignon. Je l'aimais, je le dorlotais, en dépit des frais d'éloquence du curé et de ses efforts multiples pour extirper de mon âme cette plante de Satan. Ensuite, et c'était là le point le plus grave, la faculté du raisonnement se développa chez moi rapidement. J'entrais dans des discussions qui mettaient le curé à l'envers. Je me permettais des appréciations qui heurtaient et froissaient souvent ses plus chères opinions. C'était un vif plaisir pour moi de le contredire, de le taquiner, de prendre le contre-pied de ses idées, de ses goûts, de ses assertions. Cela me fouettait le sang, me tenait l'esprit en éveil. Je soupçonne qu'il éprouvait le même sentiment et qu'il eût été profondément désolé si j'avais perdu tout à coup mes habitudes ergoteuses et l'indépendance de mes idées. Mais je n'avais garde, car lorsque je le voyais se trémousser sur son siège et bourriffer ses cheveux avec désespoir, barbouiller son nez de tabac en oubliant toutes les règles de la propreté, oubli qui n'avait lieu que dans les cas sérieux, rien n'égalait ma satisfaction. Cependant, s'il eût été seul en jeu, je crois que j'aurais résisté quelquefois aux démons tentateurs. Ma tante avait pris la funeste habitude d'assister aux leçons, bien qu'elle n'y comprît rien, et qu'elle bâilla 10 fois par heure. Or, la contradiction, lors même que sa laide personne n'était pas en scène, la mettait en fureur. Fureur d'autant plus grande qu'elle n'osait rien dire devant le curé. Ensuite, me voir discuter lui paraissait une monstruosité dans l'ordre physique et moral. Jamais je ne m'attaquais à elle directement, car elle était brutale et j'avais peur des coups. Enfin, ma voix, cependant douce et musicale, je m'en flatte, produisait sur ses nerfs auditifs un effet désastreux. En cette occurrence, on comprendra qu'il me fut impossible, absolument impossible, de ne pas mettre en œuvre ma malice pour ne pas faire enrager ma tante et tourmenter mon curé. Cependant, je l'aimais, ce pauvre curé. Je l'aimais beaucoup et je savais que, en dépit de mes raisonnements saugrenus qui allaient parfois jusqu'à l'impertinence, il avait pour moi la plus grande affection. Je n'étais pas seulement son ouaille préférée, j'étais son enfant de prédilection, son œuvre, la fille de son cœur et de son esprit. À cet amour paternel se mêlait une teinte d'admiration pour mes aptitudes, mes paroles et mes actes en général. Il avait pris sa tâche à cœur. Il avait juré de m'instruire, de veiller sur moi comme un ange tutélaire, malgré ma mauvaise tête, ma logique et mes boutades. Du reste, cette tâche était devenue promptement la plus douce chose de sa vie, la meilleure, si ce n'est la seule distraction de son existence monotone. Par la pluie, le vent, la neige, la grêle, la chaleur, le froid, la tempête, je voyais apparaître le curé, sa soutane retroussée jusqu'aux genoux et son chapeau sous le bras, je ne sais si, de ma vie, je l'en ai vu coiffé. Il avait la manie de marcher la tête découverte, souriant aux passants, aux oiseaux, aux arbres, aux brins d'herbe. Replet dodu, il paraissait rebondir sur la terre qu'il foulait d'un pas alerte et à laquelle il semblait dire « Tu es bonne et je t'aime ». Il était content de vivre, content de lui-même, content de tout le monde. Sa bonne figure, rose et fraîche, entourée de cheveux blancs, me rappelait ces roses tardives qui fleurissent encore sous les premières neiges. Quand il entrait dans la cour, poules et lapins accouraient à sa voix pour grignoter quelques croûtes de pain qu'il avait eu soin de glisser dans sa poche avant de quitter le presbytère. Périne, la fille de basse-cour, s'empressait d'ouvrir la porte et de l'introduire dans le salon où nous prenions nos leçons. Ma tante, plantée dans un fauteuil, avec la grâce d'un paratonnerre un peu épais, se levait à son approche, lui souhaitait la bienvenue d'un air maussade et se lançait au galop sur le chapitre de mes méfaits. Après quoi, se rasseyant tout d'une pièce, elle prenait son tricot, son chat favori sur ses genoux et attendait, ou n'attendait pas, l'occasion de me dire une chose désagréable. Le bon curé écoutait avec patience cette voix rêche qui brisait le tympan. Il arrondissait le dos comme si la mercuriale était pour lui et me menaçait du doigt en souriant à moitié. Dieu merci, il connaissait ma tante de longue date. Nous nous installions à une petite table que nous avions placée près de la fenêtre. Cette position avait pour double avantage de nous tenir assez éloignés de ma tante qui trônait près de la cheminée au fond de l'appartement, puis de permettre à mes yeux de suivre le vol des hirondelles et des mouches et, en hiver, d'observer les effets de la neige et du givre sur les arbres du jardin. Le curé posait sa tabatière à côté de lui, un mouchoir à carreaux sur le bras de son fauteuil et la leçon commençait. Quand ma paresse n'avait pas été trop grande, les choses allaient bien tant qu'il s'agissait des devoirs à corriger, car, quoi qu'ils fussent le plus court possible, ils étaient toujours soignés. Mon écriture était nette et mon style facile. Le curé secouait la tête d'un air satisfait, prisait avec enthousiasme et répétait « Bon, très bon !» sur tous les tons. Pendant ce temps, je comptais mentalement les taches qui couvraient sa soutane et je me demandais quelle apparence il pourrait bien présenter s'il avait une perruque noire, des culottes collantes et un habit de velours rouge, comme celui que mon grand-oncle portait sur son portrait. L'idée du curé en culotte et en perruque était si plaisante que je partais d'un grand éclat de rire. Alors ma tante s'écriait « Saute, petite bête !» et autres aménités de ce genre, qui avaient le privilège d'être aussi parlementaires qu'explicites. Le curé me regardait en souriant et répétait deux ou trois fois « Ah, jeunesse, belle jeunesse !» et un souvenir rétrospectif sur ses 15 ans lui faisait ébaucher un soupir. Après cela, nous passions à la récitation et les choses n'allaient plus si bien. C'était l'heure critique, le moment de la causerie, des opinions personnelles, des discussions, voire même des disputes. Le curé aimait les hommes de l'Antiquité, les héros, les actions presque fabuleuses dans lesquelles le courage physique a joué un rôle important. Cette préférence était étrange car il n'était pas précisément pétri de l'argile qui fait les héros. J'avais remarqué qu'il n'aimait point à retourner chez lui à la nuit, et cette découverte, tout en me le rendant plus cher, car j'étais moi-même fort poltronne, ne pouvait me laisser aucune illusion sur son courage. Ensuite, sa bonne âme placide, tranquille, amie du repos, de la routine, de ses ouailles et du corps qu'il a possédé, n'avait jamais, au grand jamais, rêvé le martyr. Je le voyais pâlir, autant du moins que ses joues roses le lui permettaient, en lisant le récit des supplices infligés aux premiers chrétiens. Il trouvait très beau d'entrer dans le paradis d'un bon héroïque, mais il pensait qu'il était bien doux de s'avancer tranquillement vers l'éternité sans fatigue et sans hâte. Il n'avait pas de ces élans exaltés qui inspirent le désir de la mort pour voir plutôt le souverain des mondes et du temps. Oh, point du tout! Il était décidé à s'en aller sans murmurer quand son heure arriverait, mais il désirait sincèrement que ce fût le plus tard possible. J'avoue que mon tempérament, qui ne brille pas par la corde héroïque, s'arrange de cette morale douce et facile. Néanmoins, il en tenait pour ses héros. Il les admirait, les exaltait, les aimait d'autant plus, sans doute, que, le cas échéant, il se sentait absolument incapable de les imiter. Quant à moi, je ne partageais ni ses goûts, ni ses admirations. J'éprouvais une antipathie prononcée pour les Grecs et les Romains. Par un travail subtil de mon intelligence fantaisiste, j'avais décidé que ces derniers ressemblaient à ma tante, ou que ma tante leur ressemblait comme on voudra, et du jour où je fis ce rapprochement, les Romains furent jugés, condamnés, exécutés dans mon esprit. Cependant, le curé s'obstinait à barboter avec moi dans l'histoire romaine, et je m'entêtais de mon côté à n'y prendre aucun intérêt. Les hommes de la République me laissaient froide et les empereurs se confondaient dans ma tête. Le curé avait beau pousser des exclamations admiratives, se fâcher, raisonner, rien n'ébranlait mon insensibilité et mon idée personnelle. Par exemple, racontant l'histoire de M. Sévola, je terminais ainsi « Il brûla sa main droite pour la punir de s'être trompé, ce qui prouve qu'il n'était qu'un sot. » Le curé, qui m'écoutait un instant auparavant d'un air béat, tressautait d'indignation. « Un sot, mademoiselle, et pourquoi cela ?»« Parce que la perte de sa main ne réparait pas son erreur, » répondais-je, « que Porsena n'en était ni plus ni moins vivant et que le secrétaire ne s'en portait pas mieux. » « Bien, la petite, mais Porsena fut assez effrayée pour lever le siège immédiatement. » « Ceci, monsieur le curé, prouve que Porsena n'était qu'un poltron. » « Soit, mais Rome était délivrée, et grâce à qui ? Grâce à Sévola, grâce à son action héroïque. » Et le curé, qui frémissait à l'idée de se brûler le bout du petit doigt, n'en admirait que mieux monsieur Sévola de s'exalter, de se démener pour me faire apprécier son héros. J'en tiens pour ce que j'ai dit, reprenais-je tranquillement. Ce n'était qu'un sot et un grand sot. Le curé suffoqué s'écriait. Quand les enfants se mêlent de raisonner, les mortels entendent bien des sottises. Monsieur le curé, vous m'avez appris l'autre jour que la raison est la plus belle faculté de l'homme. Sans doute, quand il sait s'en servir. Puis je parlais de l'homme fait et non des petites filles. Monsieur le curé, le petit oiseau essaie ses forces au bord du nid. L'excellent homme, un peu déconcerté, s'ébouriffait les cheveux avec énergie, ce qui lui donnait l'air d'une tête de loup poudrée à blanc. « Vous avez tort de temps discuter, ma petite, » me disait-il quelquefois. « C'est un péché d'orgueil. Vous ne m'aurez pas toujours pour vous répondre, et quand vous serez aux prises avec la vie, vous apprendrez qu'on ne discute pas avec elle, qu'on la subit. » Mais je me souciais bien de la vie. J'avais un curé pour exercer ma logique, et cela me suffisait. Lorsque je l'avais bien taquiné, ennuyé, harcelé, il s'efforçait de donner à son visage une expression sévère, mais il était obligé de renoncer à son projet, sa bouche toujours souriante, se refusant absolument à lui obéir. Alors il me disait « Mademoiselle de Laval, vous repasserez vos empereurs romains et vous ferez en sorte de ne pas confondre Tibère avec Vespasien. » « Laissons ces bons hommes, monsieur le curé, lui répondais-je. Il m'ennuie. Savez-vous que si vous aviez vécu de leur temps, ils vous auraient grillé vif ou arraché la langue et les ongles ou coupé en petits morceaux, menus comme chair et pâté. » À ce sombre tableau, le curé tressaillait légèrement et s'en allait en trottinant, sans daigner me répondre. Je savais que son mécontentement était arrivé à son apogée quand il m'appelait « Mademoiselle de Laval ». Ce nom cérémonieux en était la plus vive manifestation et j'avais des remords jusqu'au moment où je le voyais apparaître de nouveau, les cheveux au vent et le sourire aux lèvres.